RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Infomag, Gilles Ménage.
Les incertitudes de la météo face aux dépressions, les risques étaient avérés selon Météo France Nouvelle-Calédonie. Nous avons fait le point ce matin face aux critiques émises ce week-end. La coopération militaire régionale se relance et se renforce après 2 ans de Covid. Les chefs d'état-major des armées australiennes et néo-zélandaises sont sur le territoire. Et puis dans ce journal, le retour de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Nord. Elle revient aujourd'hui sur le départ du haut-commissaire Patrice Faure. Métropole, c'est l'heure des retrouvailles pour le couple franco-allemand. Le chancelier Olaf Scholz est à Paris à l'invitation d'Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État commémorent le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Actualité à l'étranger marquée par cette fusillade aux États-Unis qui a fait 10 morts dans une ville près de Los Angeles où la communauté asiatique est très présente et en pleine célébration du Nouvel An chinois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Infomag. Comme tous les lundis midi, après ce journal, vous avez rendez-vous avec le Mag des Sports. Bonjour Michael Gineski.
Bonjour Gilles.
Et on évoquera bien sûr l'actualité du football.
Eh oui, la Coupe de France, les 16e de finale et leur lot de surprises quand les clubs de l'élite affrontent les amateurs. Et c'était moins une pour les Nantais de Comboiré, les tenants du titre contre la modeste équipe de Taon. Victoire finalement des Canaris Nantais aux tirs au but. Et puis demain, le spectacle devrait être au rendez-vous quand Mbappé et le PSG vont défier le club de Pays de Cassel, une équipe qui joue en division honneur.
Également du football au menu avec du tennis.
Oui, Melbourne, Caroline Garcia, la dernière chance bleue et pourtant c'est du sérieux. Un réel espoir de victoire finale dans cette Open d'Australie. Elle se prépare cet après-midi à disputer son 8e de finale avec la casquette de 4e joueuse mondiale.
Et puis sur le territoire, nous parlerons gymnastique.
Ouais, avec le club la Néo-Calédonienne de gymnastique, c'est l'une des plus anciennes associations sportives présentes sur le territoire. Une vieille dame en quelque sorte, mais portée par de jeunes athlètes ambitieuses, aujourd'hui bien lancées sur une nouvelle dynamique. Nous en parlerons avec Christophe Thomas, son président.
Deux dépressions ont touché la Nouvelle-Calédonie la semaine dernière. Elles ont apporté de fortes précipitations localement, même si certains Calédoniens ont le sentiment, Morgane Boucher, que les prévisions ont été trop alarmistes.
Ah oui, il y a d'abord eu la dépression tropicale modérée Irène qui a touché la Nouvelle-Calédonie entre mardi soir et mercredi matin par l'est, puis une seconde dépression tropicale faible qui a longé le territoire par l'ouest. La première a apporté du vent fort jusqu'à 85 km/h, alors que la seconde a apporté plus de pluie. Gilles Perret, le directeur du service de la météorologie de Nouvelle-Calédonie, revient sur la difficulté de faire des prévisions dans ce genre de cas.
C'est la difficulté toujours qu'il y a entre le local et le global. Globalement, on a un phénomène dépressionnaire tropical, donc qui amène quand même des pluies. Mais localement, eh ben, il peut très bien qu'il ne donne pas de pluie. Dans un phénomène de cette importance-là, c'est-à-dire un phénomène faible, quand on a un cyclone, c'est quasiment sûr, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez avoir de la pluie. Mais là, un phénomène faible, c'est pas quelque chose de continu, c'est un ensemble d'orages qui tournent. Et on peut passer à travers. On peut pas, dans la prévision, prévoir où est-ce qu'il va pleuvoir, où est-ce qu'il va pas pleuvoir. Et même si on était capable de le faire, c'est difficile aussi à gérer pour les autorités. La vigilance, on la met par commune, on la met pas par à l'échelle d'un quartier ou des trucs comme ça. Donc le principe de la vigilance, c'est quand même, déjà, c'est à l'échelle de la commune, c'est assez fin. Mais même à l'échelle de la commune, c'est pas possible de prévoir exactement où il va pleuvoir. Donc il y a des gens qui peuvent avoir l'impression qu'il a pas plu, mais à côté, des fois, 20 km plus loin, il a plu abondamment. Et ça, nous, de toute façon, on n'est pas capable de prévoir aussi précisément plusieurs heures à l'avance. Et là, sur ces deux phénomènes qu'on a eus, donc le premier qui était une dépression tropicale modérée, bah c'est pas à négliger quand même, c'est un petit phénomène tropical, mais il faut pas le négliger, ça peut donner des pluies abondantes. Bon, bah, on avait prévenu par des vigilances orange, donc les autorités étaient prêtes, il y a eu quand même un peu de vent, il y a eu pas mal de pluies à certains endroits. Et puis la deuxième, bah, c'est un phénomène un peu plus faible, donc le niveau d'alerte était un peu plus faible aussi, puisqu'on avait mis vigilance orange pluie, mais pas vent.
Météo France Nouvelle-Calédonie n'a pas surévalué le risque pour se couvrir, confirme Gilles Perret.
On ne surévalue pas pour se couvrir, ce n'est pas du tout la déontologie du métier. Hein. Nous, on évalue le mieux possible. Enfin, je veux dire, si on surévaluait pour nous couvrir, on serait tout le temps vigilance orange. Hein. On met les prévisions par rapport à ce qu'on prévoit, à ce qu'on envisage. Sauf que faut bien penser qu'une vigilance détermine un risque. Vous avez vu, il y a eu d'autres événements contraires, c'est-à-dire pas en particulier en Corse cet été, il y a eu un événement où on n'était pas en vigilance rouge alors qu'il y a eu des pluies hyper abondantes. Donc il y a le risque inverse aussi, c'est-à-dire le risque d'être en dessous du niveau du phénomène. de mon point de vue, là, c'était bien évalué. Le risque était vraiment du niveau orange. Après, comme je vous dis, le risque, il s'est avéré à certains endroits, mais pas partout.
Après trois dépressions tropicales d'intensité diverse en moins de 15 jours, les services de Météo France Nouvelle-Calédonie n'ont pas noté de formation dépressionnaire qui pourrait toucher le territoire dans les prochains jours.
RRB 11h35.
L'heure du retour de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Nord. Elle revient aujourd'hui sur le départ du haut-commissaire Patrice Faure.
Qu'on se le dise, Patrice Faure ne sera pas un calédologue. Alors qu'il doit partir pour d'autres cieux après moins de 2 ans en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire est formel. Bien sûr qu'il ne se désintéressera pas de la Nouvelle-Calédonie. Comment pourrait-on s'en désintéresser ? Mais il ne sera pas un calédologue, celui qui répond aux questions et qui vieillit un peu loin du dossier. Calédologue, c'est un néologisme formé il y a tout juste un an par un désormais ancien député qui a un peu de mal à se mettre en retrait. Il avait baptisé ainsi la vingtaine de personnalités du monde politique, universitaire ou de la haute fonction publique qui avait été impliqué dans le dossier calédonien et qu'il avait invité à déjeuner à Paris. Une sorte de groupe d'experts auquel Patrice Faure ne veut pas adhérer, même s'il déclare qu'ils sont tous aussi bons les uns que les autres, mais qu'il n'a pas envie d'en devenir un, parce que ça montre que l'on vieillit. Et au-delà de la facétie, le haut-commissaire sur le départ se permet une mise en garde que chacun comprendra. « Je me garderai d'être en déphasage », dit-il. Quand on n'est pas dans l'action, on est parfois déconnecté de la réalité et je me garderai d'avoir des idées préconçues sur un dossier que j'aurais perdu de vue. La charge est sévère, sans que l'on sache vraiment qui est visé par cette tirade. Mais Patrice Faure, qui était incontestablement dans l'action ces 22 derniers mois, a peut-être souffert de l'ingérence de tel ou tel calédologue qui aurait voulu s'immiscer dans le dossier. Et forcément, quelques noms viennent à l'esprit. Il quitte donc le territoire à l'aube d'une nouvelle ère ou d'une nouvelle phase qu'il aura contribué à construire. Un an après le troisième référendum qu'il avait été chargé d'organiser, il affirme que les choses ont beaucoup évolué et que le consensus est en voie d'être trouvé. Certes, il concède qu'il y a eu un peu de retard, mais à l'en croire, on s'approche du but et il reprend à Gérald Darmanin la métaphore du train. C'est un peu curieux dans un territoire qui n'a guère connu que le petit train de Païta, mais tout le monde aura compris l'image. Le train est parti, il avance doucement, mais il va accélérer et les gens vont monter dedans. En clair, les discussions sur l'avenir institutionnel sont lancées. On va rentrer dans le vif du sujet après le congrès du FLNKS fin février, avec l'ouverture des bilatérales avec l'État. Et tout le monde va y participer, même Lucé, qui traînait un peu les pieds ces derniers temps. Il faut dire que l'Union calédonienne s'est vue déboutée de toutes ses démarches internationales. On sait qu'elle avait tenté de défrayer l'organisation et le résultat du troisième référendum devant la Cour internationale de justice de La Haye, qui devait demander son avis aux Nations Unies. Mais malgré le talent de ses avocats, la démarche a fait pchit. Le troisième référendum ne peut plus être contesté et il est temps de tourner la page et de passer à une nouvelle phase. C'est enfin la phase de négociation et de construction d'un nouvel accord que le nouveau haut-commissaire Louis Lefranc sera chargé d'orchestrer, avec aux avant-postes le préfet délégué Rémi Basti, qui dirige déjà les groupes de travail. Un peu plus d'un an après le troisième référendum, et pour continuer à filer la métaphore ferroviaire, on commence donc à apercevoir le bout du tunnel.
La chronique de la semaine écoulée, signée Elisabeth Noir, retrouvée en podcast audio sur notre site internet rrb.nc. Le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie, le général Putz, est à Bourail depuis ce matin en compagnie des deux chefs d'état-major des armées australiennes et néo-zélandaises. Les deux généraux n'étaient pas venus en Nouvelle-Calédonie depuis 2 ans, crise Covid oblige. Ils ont donc repris leur bâton de pèlerin pour relancer et renforcer les discussions sur la coopération régionale. C'est ce que nous a dit le général Putz il y a quelques minutes.
Ils viennent voir les FANC, ils viennent aussi voir l'environnement des FANC et c'est pour ça que dans le programme que nous leur avons proposé, il y avait une visite à Bourail, d'abord pour une raison mémorielle, c'est passé au cimetière néo-zélandais de Nessadiou, ensuite une visite au RSMA, et puis un passage au musée de Bourail qui maintient la mémoire de la présence à Bourail de la 3e division néo-zélandaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Le reste de la visite leur permettra de visiter la base aérienne 186 à la Tontouta, Et puis, nous aurons dans l'après-midi des discussions sur la coopération régionale, sur la situation régionale, les enjeux que nous avons pour développer ensemble, avec nos partenaires océaniens, les meilleures approches pour renforcer cette résilience et cette stabilité régionale que tout le monde recherche.
J'ajoute que les deux chefs d'état-major australiens et néo-zélandais seront reçus cet après-midi par le haut-commissaire Patrice Faure. France Volontaire lance de son côté sa campagne de candidature au programme de service volontaire océanien à partir d'aujourd'hui. Campagne destinée aux jeunes calédoniens, 6 missions sont proposées au Vanuatu et 2 en Nouvelle-Zélande. Des missions de volontariat liées par exemple au développement éducatif, culturel ou agricole ainsi que la promotion de la francophonie. Les candidatures se font en ligne sur le site internet France Volontaire. Du sport et de la santé pour la jeunesse de l'IFOU, c'est l'idée proposée par la DPJEJ, la Direction de la Protection Judiciaire Enfance et Jeunesse. Du 23 au 27 janvier, 10 jeunes originaires de l'IFOU participent au programme intitulé « Pouvoir d'agir ». Ce stage est destiné à prévenir la délinquance chez les jeunes à travers diverses interventions. Au programme, randonnée, activités nautiques et interventions de professionnels de santé. Sylvie Acramel, chef de service éducatif sur le milieu ouvert du secteur des îles et des familles d'accueil, nous en parle.
C'est vraiment cette sensibilisation sur le sport et la santé, hein, l'importance de montrer la notion de ces deux valeurs et vraiment pouvoir sensibiliser au niveau de PSC1 des premiers secours qui est utile à tous les mineurs et majeurs pour certains et surtout apporter aussi ce travail sur la gestion des émotions, les compétences et ensuite le deuxième objectif aussi c'est vraiment créer aussi au sein des partenaires pouvoir créer un réseau sur lesquels on peut échanger sur les jeunes, on peut vraiment tisser du lien et pouvoir créer ce réseau sur lequel je pense qu'on peut, pour prendre en charge la jeunesse, qui est importante.
Ce stage d'une semaine aura lieu dans les locaux de la Fédération socio-éducative GEU et de la base nautique de Houé. La mise en œuvre de ce projet est une première pour la DPJEJ qui souhaite le généraliser par la suite à l'ensemble du territoire. C'est l'ancien directeur du CHS, Albert Bousquet, Philippe Palombeau, qui était notre invité ce matin sur Radio Rythme Bleu. Philippe Palombeau qui vient de prendre sa retraite après 42 ans de service dans les hôpitaux, dont 30 au CHS de Nouville. L'occasion d'un bilan sur l'évolution de ce centre qu'il a vu grandir et se moderniser.
Ce que je peux dire, eh bien, effectivement, c'est que jusqu'en 1990, c'était un peu la Belle au bois dormant. C'était un asile, un hospice, on mettait des patients qui gênait un peu tout l'aspect sociétal, des exclus. D'ailleurs, on l'appelle bien l'île de l'oubli. En fait, depuis 90-91, eh bien, on a pu en faire, et aujourd'hui c'est le cas, un hôpital de référence, un hôpital connu, un hôpital qui est présent sur les 3 provinces avec une vocation régionale, avec des professionnels qui ont pu adopter effectivement des principes qui permettent une meilleure accessibilité aux soins.
Le CHS confronté malgré son évolution favorable à de nombreux problèmes de violence, mais surtout de personnel, car la psychiatrie n'échappe pas à la pénurie de personnel médical qui sévit un peu partout sur le territoire national et singulièrement en Nouvelle-Calédonie.
Aujourd'hui, les consultations, on en a à 3-4 mois. Et en plus, on a des problèmes de recrutement de pédopsychiatres puisqu'on a perdu la moitié de nos effectifs. Et ça, c'est vraiment une problématique qui est toujours présente. Ensuite, eh bien, nous avons dû fermer des lits, notamment en unité sécurisée. Et aujourd'hui, même s'il y a des frémissements favorables au niveau des paramédicaux, le problème reste entier pour les médicaux. En particulier, j'ai indiqué au président du tribunal d'instance que j'étais dans l'incapacité d'appliquer une loi qui s'applique à nous de facto pour ce qui concerne les isolements et les contentions, puisqu'il me faudrait 6 praticiens hospitaliers en particulier que j'aurais des difficultés en ce moment à trouver.
Oui, malgré ces difficultés, le CHS a bien terminé l'année avec plusieurs projets en cours.
Nous allons, pour la rentrée, ouvrir la maison des ados, qui sera le premier étage d'une fusée de 2, qui s'appellera le Casado Nouvelle Forme, avec un accueil polyvalent, qui permettra de pouvoir réacheminer par rapport à des problématiques des ados et ou leurs parents. Et puis, nous avons aussi, du côté de Magenta, un gros chantier qui va mettre sur un seul lieu un centre médico-psychologique, un centre de consultation de la Veille du Tir et l'hôpital de jour de Lansvata, et qui va permettre d'offrir aux populations concernées, donc en service de pédo, des outils performants et surtout montrer qu'on peut tirer parti de cet ancien site de l'hôpital de Magenta, avec nos collègues du CHT qui ont joué le jeu.
Philippe Palombeau, invité du matin sur Radio Rythme Bleu, émission que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Dans la région en Nouvelle-Zélande, où le groupe parlementaire travailliste a approuvé hier la nomination de Chris Hipkins comme nouveau Premier ministre à la suite de la démission surprise de Jacinda Ardern, les principaux groupes politiques ont réagi à leur tour au remous politique de ces derniers jours. Jean-Pierre Zajac.
Chris Hipkins a déclaré hier que de devenir Premier ministre était, je le cite, « une énorme responsabilité, mais aussi le plus grand privilège de ma vie ». Il a ajouté que sa principale préoccupation va être d'aider les foyers à surmonter la hausse du coût de la vie. Jacinda Ardern a indiqué en réponse que son successeur sera absolument fantastique et fera un travail exceptionnel. Le leader de l'opposition, Chris Luxon, s'est montré moins enthousiaste. De changer la direction du groupe parlementaire travailliste n'apportera rien de plus au peuple néo-zélandais, a-t-il dit. Chris Hipkins, a-t-il rappelé, a fait partie d'un gouvernement qui a spectaculairement échoué à faire quoi que ce soit. Chris Luxon a également indiqué que le Parti national continuera de se concentrer sur la résolution des principaux problèmes auxquels le pays est confronté, à savoir le coût de la vie, la criminalité, la santé et l'éducation. À Sydney, Jean-Pierre Dajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, c'est justement notre question du jour. Approuvez-vous la décision de Jacinda Ardern de démissionner de ses fonctions de Première ministre de Nouvelle-Zélande en invoquant son épuisement personnel et le besoin de retrouver sa famille? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Merci de votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 11h47. Dans un instant, on voit toute l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chez Décorama, vous trouverez tous les matériaux de construction et finition du bâtiment pour réaliser vos projets. Décorama à Ducos Factory, c'est une équipe de professionnels pour vous conseiller dans vos choix. Plus d'infos au 27 45 40 ou sur decorama.nc. Décorama vous souhaite une belle et heureuse année.
Vous avez une petite fringale? Vous avez une grosse fringale? Alors venez vite au Snack Ciné Café. Aussitôt commandé, aussitôt servi. Le Snack Ciné Café vous propose sa toute nouvelle carte. Sur place ou à emporter, avec le Snack Ciné Café, c'est copieux, c'est pratique et c'est pas cher. Ouvert dès 11h30 le matin et 16h30 le soir. Le Snack Ciné Café pour passer un moment vraiment sympa.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, 11h, 13h, Infomag, Gilles Ménage.
En métropole, c'est l'heure des retrouvailles pour le couple franco-allemand. Le chancelier Olaf Scholz est à Paris à l'invitation d'Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État commémorent le 60e anniversaire du traité de l'Élysée et ont insisté sur la nécessité pour les deux pays de redevenir la locomotive de l'Europe et de riposter aux mesures protectionnistes prises par les États-Unis. Mais les deux hommes étaient surtout attendus sur la question du soutien militaire à l'Ukraine. Et sur ce point, Emmanuel Macron n'a pas exclu d'envoyer des chars Leclerc à Kiev. Écoutez.
J'ai demandé donc au ministre des Armées d'y travailler. Rien n'est exclu et cela s'apprécie en effet collectivement et au regard de trois critères. D'une part, comme on l'a toujours fait depuis le début, que ça ne soit pas escalatoire. La deuxième, c'est que ça puisse apporter un soutien réel et efficace à nos amis ukrainiens. Le troisième critère, c'est de ne pas affaiblir nos capacités propres de défense, en particulier de nos structures critiques.
Oui, de son côté, le chancelier allemand a annoncé que son pays ne s'opposerait pas à la livraison de chars Léopard, cette fois à l'Ukraine, par la Pologne. Emmanuel Macron sur le terrain de l'actualité internationale, donc, mais qui sera rattrapé dès demain par la contestation sociale en interne. Le projet de réforme des retraites sera présenté demain soir pour nous en Conseil des ministres, avant un débat parlementaire qui s'annonce tendu. Les syndicats veulent tout faire pour empêcher le vote de ce texte, alors que les différentes formations politiques tentent de l'amender. Exemple avec le Modem qui a eu l'idée de transformer les 35 heures par semaine en 35 heures et demie pour financer la réforme. Jean-Paul Mattei est le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale.
s'est dit, est-ce que 30 minutes par semaine de plus, bon, ça fait quoi? Ça fait un jour 10 minutes, un autre jour 5 minutes. Un peu à l'image de la journée de solidarité, vous savez, du lundi de Pentecôte. On n'a pas arrêté encore notre ligne, que ça soit au stade de la commission, au stade de l'hémicycle. On va voir comment on peut essayer d'améliorer le texte. C'est une hypothèse parmi d'autres.
Le chef des députés MoDem qui propose également une clause de revoyure en 2027 sur le texte, mais sur la question du temps de travail en tout cas, pas question d'y toucher, lui a répondu le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
Moi, je serais plutôt enclin à ne pas ouvrir, si vous voulez, le chantier du temps de travail hebdomadaire au moment où on est déjà dans un chantier qui concerne les retraites. Je pense qu'il ne faut pas allumer tous les feux, affronter tous les fronts, mener tous les fronts et tous les combats, etc. C'est pas en tout cas le mien. Je considère qu'on n'a pas vocation à revenir sur le système des 35 heures.
Et de son côté, le Rassemblement national souhaiterait que ce texte soit soumis au peuple. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, en a fait la proposition dans le grand rendez-vous européen CNews des Échos dont il était l'invité.
Je pense que nous pourrions aller, dans les prochains jours, vers des temps difficiles et incertains, avec des mobilisations populaires dans la rue, des risques de blocage. Et puis il y a cette majorité de refus qui se constitue dans le pays, autour de ces 68% de Français, d'après le sondage IFOP, qui sont opposés à la réforme des retraites. Moi je dis... Quand on a cet horizon-là devant soi, alors il faut passer par référendum.
Jordan Bardella, président du Rassemblement national, invité du grand rendez-vous européen CNews, Les Échos, émission qui sera diffusée ce soir sur notre antenne juste après notre édition de 17h45.
RRB, 11h51.
C'est la grande pagaille au Parti Socialiste. Après le scrutin censé désigner le premier secrétaire du parti, Olivier Faure continue de se déclarer vainqueur. Alors que son opposant, Nicolas Meyer-Rossignol, conteste, les équipes d'Olivier Faure auraient en effet donné l'ordre d'arrêter le recueillement des résultats. Et ce matin sur Europe 1, Nicolas Meyer-Rossignol a dénoncé des pratiques frauduleuses.
Et je dénonce des pratiques frauduleuses qui existent dans le Parti Socialiste depuis trop longtemps. Pas partout, pas systématiquement, mais dans un certain nombre de fédérations. Cette fois-ci, ça s'est passé notamment à Liévin, dans le Pas-de-Calais, ça se passe dans les Bouches-du-Rhône, ça se passe dans d'autres sections encore, encore une fois pas partout et heureusement, mais dans des endroits où ces pratiques sont avérées, sont enquistées et ne sont pas acceptables.
Quant à l'ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault, il a jugé ce matin sur France Info la situation pathétique. L'ancien Premier ministre de François Hollande affirme vivre cet épisode avec beaucoup de tristesse. L'actualité à l'étranger est marquée par cette fusillade aux États-Unis qui a fait 10 morts dans une ville près de Los Angeles où la communauté asiatique est très présente et en pleine célébration du Nouvel An chinois. Le tireur qui a été poursuivi par la police serait actuellement cerné par les forces de l'ordre à Vivafrid pour Europe 1.
Il était environ 22h20 hier soir quand un tireur a fait irruption dans une salle de bal de Monterey Park, un faubourg de Los Angeles. Il tire vraisemblablement au semi-automatique, faisant un carnage, comme le raconte le shérif de Los Angeles, Robert Luna.
Les policiers qui sont entrés ont vu de nombreux blessés par balles. Les pompiers sont intervenus pour soigner les victimes sur place et malheureusement, ils ont dénombré 10 morts.
Alors d'après les premières informations recueillies par la police auprès de témoins, le suspect pourrait être un homme d'origine asiatique, mais le motif raciste n'est pas écarté pour le moment. Les habitants de Monterey Park sont majoritairement d'origine asiatique et la ville accueillait ce week-end l'un des plus importants festivals de la région pour célébrer le Nouvel An chinois. Toutes les festivités d'aujourd'hui ont d'ailleurs été annulées par respect pour les victimes, mais aussi pour des raisons de sécurité.
Vivafrid, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Il est 11h54 dans un instant. C'est le Mac des Sports.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Alex raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
Born Again, votre constructeur de villas de qualité au juste prix avec des délais de livraison garantis.
Villa Born Again.
Villa Born Again, la construction sereine. Info sur bornagain.nc.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
C'est l'heure du magazine des sports. Mais avant, on salue notre parrain.
Avec Décathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Décathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
Et la une du sport aujourd'hui, Michael Juneski, du football, avec la suite des 16e de finale de la Coupe de France.
Oui, et c'est passé de justesse aujourd'hui pour les tenants du titre. Les Nantais d'Antoine Comboiré se sont qualifiés aux tirs au but contre la modeste équipe de Taon en National 3. Et oui, 0-0 à la fin du temps réglementaire. 4 tirs réussis à 2, grâce notamment à une énorme séance du gardien des Canaries dans cette épreuve fatidique. La réaction d'Antoine Comboiré.
Plus que compliqué, je tenais surtout donc à féliciter cette équipe de Taon qui a été monstrueuse, énorme. Au-delà de la surprise que j'ai eue donc de voir une équipe bien défendre, mais capable aussi de jouer, capable de nous poser des problèmes. On a été incapable de marquer, on a été capable même d'être dangereux. Donc c'est une contre-performance, mais voilà, on est passé par la toute petite porte. Bien sûr que je suis pas content de notre match. On est content de la qualification, mais faut pas jouer comme ça pour les prochains tours, parce que sinon on va passer à la trappe.
Et pour les clubs de Ligue 1 toujours, ça s'est mieux passé pour l'AGO Serre qui a sorti Niort sur le score de 4-0. Succès encore de Lille face à Pau qui évolue en Ligue 2, 2-0. Ce week-end, l'Olympique Lyonnais avait battu Chambéry, équipe de National 3, 3-0. Et puis Lorient s'était imposé sur Bastia au tirs au but. Un but partout à la fin du temps réglementaire. Dans les chocs entre pensionnaires de Ligue 1, Toulouse a battu l'AC Ajaccio 2-0. Lens a écarté Brest 3-1. Et puis l'OM a battu Rennes sur le score de 1-0. Pour le reste, Reims a sorti le club des Herbiers. Vous vous souvenez, les surprenants finalistes de l'édition 2018. Score final 3-0. Angers a dominé le Strasbourg Olympique 1-0. On signalera encore les qualifications du Paris FC, club de Ligue 2, de Grenoble, également en deuxième division, de Rodez, toujours en Ligue 2, comme Annecy. Et enfin, Vierzon en National 2. Demain, encore un match au programme. Et quel match ? Le PSG se déplacera sur le terrain du club de Pays de Cassel, un petit pousset de la compétition qui évolue en Régional 3. Pourtant, le coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, annonce qu'il alignera bien ses meilleurs éléments disponibles.
La meilleure équipe possible sera alignée en Coupe de France. Puisque je veux retrouver des automatismes, puisque l'on veut retrouver du rythme et de l'intensité et des automatismes, il n'y a aucune raison, et ça serait même stupide, de faire certaines turnovers. On aura une équipe très, très, très compétitive et très proche de ce qu'elle peut être en championnat.
Pays de Cassel, PSG, avec probablement Messi et Mbappé qui devraient être de la partie face à cette modeste équipe de division honneur, à suivre à partir de 6h45 ce mardi pour nous.
Encore du football, Michael, avec les autres pelouses européennes.
En Espagne, des victoires pour le leader, le FC Barcelone sur Getafe 1-0. Pour le deuxième, le Real Madrid contre l'Athletic Bilbao 2-0, avec un but sur une belle reprise de volée de Karim Benzema. L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann est lui aussi en forme. Le Français a marqué ce week-end un but dans la victoire des Madrilènes sur Valladolid 3-0. La suite du programme en Italie, cette fois le leader du calcio, Naples, qui a battu Salernitana sur le score de 2-0. La Juventus Turin a fait match nul face à l'Atalanta Bergame sur le score de 3-0. En Allemagne, Wolfsburg a étrié Fribourg, le quatrième du classement, 6-0. Hier, le Bayern Munich n'avait pu faire mieux qu'un nul contre Leipzig, le troisième, 1-0, avec notamment un but de l'ancien parisien Choupo-Moting. Enfin, en Angleterre, plus rien n'arrête Arsenal qui a dominé Manchester United, 3-2. Pas de but dans le choc entre Liverpool et Chelsea, 0-0. Manchester City a battu Wolverhampton sur le score de 3-0.
On s'intéresse à présent au mondial de handball. L'équipe de France reste sur un sans faute à l'issue des matchs de groupe.
Ouais, les Français de Luka Karabatic, juste avant le début de la phase des matchs couperets, ont battu l'Espagne sur le score de 28-26. Ils étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale. Ils terminent premiers de leur groupe. Les champions olympiques doivent désormais attendre le résultat de la confrontation entre l'Allemagne et la Norvège demain pour connaître leur adversaire en quart de finale. Quart de finale programmé jeudi prochain.
Sur les terrains de rugby maintenant, la fin des phases de poule de la Champions Cup.
Et dans la poule B, Montpellier s'en est sorti au bout du suspense face au London Irish. 21-21 score final grâce à une belle remontée du MHR dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Montpellier continue donc l'aventure en Coupe d'Europe en huitième de finale. Le coach des Montpellierains, Philippe Saint-André.
Je retiens quand même qu'on est encore qualifié en phase finale de la Champions Cup, deux fois d'affilée. Je crois que c'est pas arrivé souvent dans l'histoire du club de Montpellier. Donc même sans être exceptionnel, on est encore là. On manquait d'efficacité. Alors après voilà, on est qualifié, on n'a pas perdu.
Montpellier qui connaît son prochain adversaire, les Anglais d'Exeter en huitième de finale. Les autres résultats aujourd'hui, tout d'abord les Toulousains de Rodrig Netti qui ont terminé deuxième de leur poule derrière le Stade Rochelet après une dernière victoire sur le Munster 20-16. Ils retrouveront les Sud-Africains des Bulls en huitième de finale. La Rochelle qui avait battu ce week-end Northampton 31-13 pour prendre la place de leader et qui croisera le fer avec Gloucester au prochain tour. Dans la poule B, Clermont a perdu sur le terrain des Stormers sud-africains 30-16 et est donc éliminé de la compétition. Dans la poule A maintenant, ça s'est mal passé pour l'Union Bordeaux-Bègles de Yoram Moefana qui s'est incliné à domicile contre Gloucester 26-17. Défaite également du Racing 92 sur le terrain du Leinster 36-10. Les Racingmen ne joueront pas la suite du tournoi et Castres termine sans aucune victoire après s'être incliné à Exeter 40-13.
Du rugby à 7 avec la fin du tournoi d'Hamilton en Nouvelle-Zélande.
L'équipe de France masculine a terminé hier au pied du podium. Les Bleus du Calédonien Nissi Huillard, battus en demi-finale par la Nouvelle-Zélande 38-0, ont terminé sur une nouvelle défaite face aux États-Unis 15-14. Ils avaient battu en quart de finale l'Afrique du Sud sur le score serré de 22-17. On rappelle qu'ils étaient passés en Calédonie une semaine pour se préparer avant de rallier la Nouvelle-Zélande. L'équipe de France féminine de Yolen Yengo a été battue en quart de finale par les Irlandaises 24-7. C'est encore incliné dans le match pour la cinquième place face aux Japonaises 19-12. Mais les Françaises terminent à la septième place après un succès sur les Fidjiennes 34-5. Les équipes de France masculines et féminines mettront le cap cette semaine sur l'Australie pour l'étape mondiale à Sydney.
On passe au tennis avec Mickaël, les huitièmes de finale de l'Open d'Australie.
Et Caroline Garcia qui affrontera en début d'après-midi la Polonaise Magda Linette. La Française numéro 4 mondiale a toutes ses chances sur les cours de Melbourne. Elle peut nourrir de réels espoirs de remporter, et pourquoi pas cette année, son premier tournoi du Grand Chelem en carrière. On rappelle qu'elle a gagné l'année dernière les Masters de fin de saison. Caroline Garcia, la dernière chance bleue, n'a plus peur de ses ambitions.
Forcément, l'objectif de la saison et des prochaines années, ça va être de réussir à aller au bout d'un grand chelem. Est-ce que ça sera celui-là? On ne sait pas. Mais c'est un beau challenge. Je suis pas la seule à vouloir aller le chercher, mais vraiment me concentrer d'abord jour par jour.
Le match de Caroline Garcia sera à suivre aux environs de 12h30, dans une petite demi-heure. Donc, toujours dans le tableau dames, la numéro 1 mondiale, c'était la surprise. Hier, la Polonaise Iga Świątek a été éliminée par la Lettonne Elena Rybakina. Et puis, on citera encore dans le tableau, messieurs, cette fois, que Stefanos Tsitsipas, le Grec, a dominé l'Italien Yannick Sinner en 5-7. Il y aura un choc en vue cet après-midi, tout d'abord entre le Russe Andrei Rublev et le Danois Holger Rune. Ce soir, Novak Djokovic affrontera l'Australien Alex de Minaur.
En Australie, toujours du cyclisme, c'est Jay Vine qui a remporté hier à Adélaïde le Tour d'Under 2023.
L'Australien de 27 ans, ancien pratiquant du VTT, s'est imposé dès sa première participation. Il remporte le classement général avec seulement 11 petites secondes d'avance sur le Britannique Simon Yates, qui s'est pourtant adjugé hier la cinquième et dernière victoire d'étape.
Les sports mécaniques, c'est du rallye. Sébastien Ogier gagne toujours sur le championnat du monde W.
Une nouvelle victoire à Monte Carlo. Ogier, roi dans la principauté. Il est en pré-retraite à 39 ans, c'est-à-dire qu'il ne dispute plus que quelques étapes dans le calendrier. Et pourtant, le Français a remporté haut la main la première épreuve de la saison. C'est sa 9e victoire sur le rallye de Monte Carlo, un record. Le pilote Toyota qui a devancé le champion du monde en titre, le Finlandais Kalle Rovenpera.
Et on termine avec les sports d'hiver, Mickaël.
Ouais, tout d'abord en biathlon, l'équipe de France qui a terminé 2e du relais d'Antols lors de l'étape de la Coupe du Monde en Italie, juste derrière les intouchables norvégiens. Autre 2e place, cette fois-ci en ski alpin. Joan Claret, ce week-end, a décroché l'argent sur la descente de Kitzbühel en Autriche. Il a terminé derrière le norvégien Alexander Kilde. Et puis en ski de fond, Richard Jouve a lui terminé 2e du sprint libre de Livigno. C'est en Italie lors d'une nouvelle manche de la Coupe du Monde.
Midi et 5 minutes sur Radio Rythme Bleu.